Bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Et pour celles qui ont la chance de nous écouter sur un poste radio à Marseille, en mode vieille France, vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le 28 janvier 2025. On est en direct de 19h à 20h et en rediffusion demain entre 9 et 10. Puis l'émission sera disponible en podcast sur Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seules, elles seraient comme des arbres isolés. Ensemble, elles forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains, les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Elissa et je suis accompagnée de Jeanne.
Salut.
De Claire.
Bonsoir.
De Mathieu.
Écoute.
C'était sa spéciale dédicace.
Bonsoir à tous et toutes.
Et en régie, nous avons également Marin.
Bonsoir à toutes et tous et belle émission à toi pour ta toute première, Elissa.
Merci.
Bienvenue
beaucoup.
À nos invités.
Merci. Et ce soir, nous recevons donc Lisa et Benoît de l'Incassable.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est absolument ravis de vous accueillir au micro de l'émission de la Forêt des Possibles ce soir. Et on a pour habitude de commencer l'émission par une présentation de nos invités. Donc, je vais vous laisser vous présenter vos parcours et peut-être ce qui vous a amené à vous retrouver aujourd'hui à l'Incassable et dans ce studio.
C'est moi qui commence. Alors, peut-être que Benoît,
allez,
c'est mieux
commence.
Que ça soit toi.
Donc, Benoît, je suis un des deux cofondateurs de l'Incassable avec Camille, qui est ma conjointe. Du coup, avec Camille, ça faisait longtemps en fait, qu'on voulait monter un projet en commun parce qu'on trouvait qu'on avait des profils complémentaires. Moi, je suis ingénieur, elle a plutôt un profil développement de projet. Entre-temps, en fait, on a posé nos valises à Marseille, on a eu un enfant et puis on s'est pris un confinement sur le coin de la tête en 2020. Qui nous a permis de faire un petit pas de côté et de réfléchir du coup à différents projets qu'on aimerait monter sur Marseille et dans un secteur lié à la transition écologique ou sociale. Et du coup, c'est via ça qu'on a commencé à réfléchir au problème de la consigne, enfin au problème des emballages et de la consigne. Moi, personnellement, ça faisait longtemps qu'à chaque fois que j'allais à la benne à verre, on me disait c'est bien, faut trier, mais moi en fait dès que j'entendais la bouteille se casser dans la benne à verre, je me disais bah, en fait c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'on pourrait faire mieux, cette bouteille il suffirait de la laver pour pouvoir la réutiliser, plutôt qu'elle soit en fait cassée, pour être refondue, pour être refabriquée, pour faire exactement la même bouteille. Donc voilà, au sortir du confinement, on a commencé à aller voir des brasseries à Marseille. Donc au début, c'était La Plaine et Zoumaï, qui ont tout de suite été partants. Et voilà, du coup, on a monté une première expérimentation. On a trouvé un nom pour l'association qui est née courant 2020.
Très bien. Est-ce que Lisa, tu veux nous raconter ton parcours ?
Oui, donc moi j'ai eu plusieurs vies avant l'Incassable. J'ai travaillé pour une ONG de coopération internationale. J'ai passé pas mal d'années au planning familial aussi, où j'étais directrice de l'antenne des Bouches-du-Rhône. Et donc j'étais plutôt sur des questions sociales et sociétales qu'écologiques à proprement parler. Et puis la bifurcation, elle s'est faite plutôt au niveau perso d'abord, et notamment sur la question de la réduction des déchets. Quand on commence à prendre conscience de ce problème des déchets et quand on commence à travailler sur comment réduire les siens, bah effectivement, ce que racontait Benoît, ça rend fou, quoi. C'est-à-dire ce moment où tu vas à la benne à verre et où tu jettes cette bouteille qui était parfaitement neuve, qui avait servi qu'une fois et qui s'écrase au fond de la benne, c'est comme si tu jetais ton assiette à la fin de ton repas, quoi. Et donc du coup, je me suis renseignée, j'ai commencé à suivre un certain nombre de projets sur les réseaux sociaux et notamment l'Incassable. Et puis un jour, l'Incassable a publié une offre d'emploi parce que Camille, donc la directrice de l'Incassable, partait en congé maternité, donc il fallait la remplacer. Donc c'est comme ça que j'ai mis un pied à l'Incassable et puis quand Camille est revenue de son congé maternité, je suis restée.
Magnifique. J'ai une petite question pour Claire, qui ce soir a une posture particulière, puisque d'habitude c'est elle qui pose les questions, mais ce soir elle est aussi au micro pour y répondre. Donc Claire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta posture ce soir ?
Oui, c'est vrai que je suis très contente de recevoir l'Incassable à notre micro ce soir, parce que aujourd'hui j'ai un peu la posture d'invité. Cela fait quelques mois que je travaille chez l'Incassable en tant que freelance, pour gérer tout l'aspect communication. Et il y a énormément de choses à dire, de choses qui se passent dans le secteur. Donc c'est super exaltant de travailler sur ces sujets. Et pour raconter, moi, ma petite histoire avec la consigne, j'ai vécu à l'étranger, en Allemagne, où la consigne est quelque chose qui est instauré, implémenté dans les supermarchés depuis les années 2000. Et quand je suis revenue en France après ma vie d'expat, j'avais entendu parler de l'Incassable et de ce projet qui visait à réintroduire les bouteilles réemployables et la consigne sur le territoire. Et j'avais écrit un petit message à Camille sur LinkedIn en lui disant que c'était un projet sur lequel j'aimerais bien travailler. Et des années après, m'y voilà. Donc j'en suis vraiment ravie.
C'est magnifique, j'adore ces liens qui se créent en amont et en aval autour de la forêt des possibles. Alors ma première question par rapport à la structure même de l'Incassable, on y a un petit peu répondu Benoît puisque tu es le fondateur et que tu nous as raconté comment tu as été amené à monter ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur aujourd'hui sa raison d'être, peut-être aussi sa structure juridique, comment est-ce qu'elle est composée, combien de personnes y travaillent?
Donc aujourd'hui, chez l'Incassable, il y a 6 personnes qui gravitent autour du projet. Donc en fait, chez l'Incassable, on développe une filière de consigne de bouteilles en verre à l'échelle régionale, donc en région sud, pour réduire la production de déchets liés aux emballages à usage unique. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas contre les emballages chez l'Incassable. Les emballages, c'est bien, ça a une fonction qui est essentielle, qui est de protéger des aliments, de les conserver. Mais on pense qu'aujourd'hui, en fait, on est allé beaucoup trop loin dans l'économie du jetable et une économie qui serait trop linéaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on produit chaque année 5,2 millions de tonnes d'emballages par an, donc d'emballages ménagers, donc qui finissent... au mieux qui sont triés, mais parfois qui finissent quand même dans les bennes à ordures et parfois même dans la nature. Et donc tous ces emballages, en fait, ils nécessitent l'extraction de matières premières, il faut les acheminer, il faut les fabriquer. Donc tout ça prend de l'énergie. Donc nous, la position chez l'Incassable, c'est de faire durer en fait ces emballages le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, on est présent sur 4 départements. On a commencé à l'échelle de la métropole Aix-Marseille. Puis on est allé aussi sur le département du Vaucluse et aujourd'hui on se déploie sur le département des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Aujourd'hui l'Incassable, c'est plus de 200 000 bouteilles collectées, donc ce qui représente à peu près 100 tonnes de déchets évités depuis le début du projet. Et une filière qui compte à la fois donc des producteurs, donc qui sont ceux qui vont faire l'effort d'embouteiller des boissons dans des emballages consignés, des magasins aussi qui vont être point de collecte et des consommateurs dont le rôle va être de ramener les bouteilles. Donc le rôle de l'Incassable, c'est vraiment d'animer tout ce beau monde pour en fait opérer des boucles de réemploi et faire en sorte que les bouteilles soient réutilisées.
Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est qu'est-ce qu'on réemploie aujourd'hui ? Parce que maintenant, il y a plus de 500 références réemployables disponibles dans notre région. Et donc, ça peut être de la bière, du vin. C'est les premiers qui ont démarré la filière. Il y a pas mal de soft aussi. On peut acheter de la limonade, on peut acheter du jus, des kombucha, etc. Depuis cette année, il y a du lait. Depuis cette année, même, il y a de la sauce soja disponible en boisson réemployable. Donc il commence à y avoir un choix assez sympa de boissons disponibles dans des bouteilles qu'on peut ensuite laver et réemployer.
Quand tu nous parles de ce panel, c'est des choses que vous-même vous permettez de faire embouteiller avec votre système de consigne chez l'Incassable.
avec les producteurs qu'on a accompagnés dans la région et aussi avec les producteurs qui ont été accompagnés ailleurs en France.
D'accord.
Je pense qu'on en parlera un peu plus tard.
Très bien. Comme tu disais, Benoît, à l'ère du tout jetable, où le réemploi semble complètement oublié, comment est-ce que cette initiative a été perçue, a été reçue un peu par la filière des déchets, du recyclage? Quels ont été les alliés que vous avez pu avoir dans cette démarche ou les freins que vous avez rencontrés?
Dès le début, c'est un projet qui a été très bien reçu. On a eu globalement beaucoup d'adhésions par tous les parties prenantes de la filière. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet qui fait l'unanimité parmi les consommateurs. Il y a des sondages qui ont été faits qui montrent qu'il y a 9 Français sur 10 qui sont favorables au retour pour la consigne, parce que c'est effectivement quelque chose qui va de soi. En fait, la plupart des Français ne comprennent pas pourquoi ce système a disparu. Et ensuite, du coup, de la part des professionnels, à la fois brasseurs, vignerons, producteurs de jus, et de l'autre côté, les magasins, pour les professionnels. Du coup, là aussi, on a été plutôt bien reçus. On s'est déployé tout d'abord avec les brasseries, donc ils sont en général un public qui est assez attentionné à tous les enjeux écologiques. Et aussi, on s'est déployé essentiellement au début sur les enseignes bio. Ce qui fait qu'on avait aussi un public assez réceptif. Et on a le soutien aussi des collectivités dans ce qu'on fait.
Peut-être qu'on peut citer aussi dans les pionniers qui nous ont suivis. En fait, vu qu'on est à Marseille, il y a pas mal de producteurs à Marseille qui sont impliqués dans la filière de réemploi assez rapidement et de façon vraiment très forte. Effectivement, il y a des brasseurs, c'est les tout premiers à nous avoir suivis. Il y a la brasserie de la Plaine, il y a Zoumaï, il y a les Maltfetters. Il y a aussi des producteurs de vin à Marseille, on le sait peu. On a Nathalie Cornec en plein centre-ville, on a L'Abri. Et puis plus récemment, il y a la cidrerie marseillaise aussi qui fait du cidre à Marseille, il faut le savoir, et qui a aussi des bouteilles réemployables. Donc il y a plein d'autres producteurs ailleurs dans la région, hein, mais c'est vrai que je me disais qu'on a probablement pas mal d'auditeuristes marseillais et marseillaises. Donc autant qu'ils sachent un peu qui s'implique dans cette ville, parce qu'ils sont nombreux.
Et qui se rendent compte que, en effet, vous êtes implanté dans un terreau déjà assez fertile et assez réceptif. Maintenant que le système est bien rodé, quelles sont les différentes étapes du processus de la consigne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans cette circularité-là, de la création de la bouteille, finalement, à son retour dans le circuit?
Alors, effectivement, le réemploi, c'est une boucle. Donc c'est une boucle qui démarre par un producteur qui va mettre sur le marché une boisson dans une bouteille qui est réemployable. Donc ce qu'il faut comprendre pour comprendre le réemploi quand même, c'est que malheureusement toutes les bouteilles ne sont pas réemployables. C'est-à-dire que pour qu'une bouteille soit réemployable, il faut quand même qu'elle ait certaines caractéristiques pour qu'elle puisse être suffisamment durable pour faire une bouteille, en théorie une bouteille en verre, elle peut faire jusqu'à 20 à 50 boucles, donc c'est quand même pas rien. Mais c'est pas n'importe quelle bouteille qui pourra faire 20 à 50 boucles. Et il faut en plus que son étiquette puisse se décoller au lavage. Donc il y a tout un accompagnement technique à faire avec les producteurs pour qu'ils choisissent la bonne bouteille et pour qu'ils choisissent la bonne étiquette et la bonne colle pour qu'en fin de boucle, on puisse réussir à laver cette bouteille et à la renvoyer vers un producteur. Donc là, il y a un gros travail de ce côté-là. Et puis ensuite, il faut que cette bouteille, elle aille dans un magasin. Donc il faut qu'on travaille avec des distributeurs qui vont à la fois référencer des bouteilles réemployables. Il faut qu'ils mettent en rayon ces bouteilles. Mais il faut aussi qu'ils permettent aux consommateurs de ramener la bouteille en magasin pour que nous, on puisse ensuite venir la collecter. Et ces bouteilles, ensuite, elles vont partir dans un centre de tri où elles vont être triées, parce que pour être envoyées au lavage, il faut que les bouteilles soient rangées par format, par taille, par couleur, parce que c'est comme ça qu'elles vont être ensuite livrées au producteur. Et puis ensuite, elles partent dans un centre de lavage. Et une fois qu'elles sont lavées, le but, c'est de les renvoyer au producteur le plus proche. Mmh. Donc c'est là qu'il y a tout un travail qui se fait aussi nationalement, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Parce que le but, c'est que s'il y a une bouteille de bière qui est embouteillée dans le Nord et que cette bouteille, elle est vendue à Marseille, il faut que nous, à l'incassable, on puisse collecter cette bouteille, la trier, la laver et qu'on ne la renvoie pas à Lille. parce que le but, c'est que justement, elle fasse le moins de kilomètres possible. Donc, il faut que cette bouteille, elle puisse être renvoyée à nos producteurs, à nous. Ça tombe bien. On a dit tout à l'heure qu'on avait plein de brasseurs qui sont motivés pour être dans le réemploi. Sauf que pour ça, il faut que cette bouteille, ça soit la même qui soit utilisée à Lille et à Marseille. Donc, ça veut dire qu'il faut que cette bouteille, elle soit standard. Et donc ça, c'est une des grandes révolutions du réemploi quand même. C'est qu'il faut qu'on arrive à convaincre des producteurs à qui le marketing a enseigné pendant des dizaines d'années que la différenciation du produit se faisait par le packaging et qu'on leur explique que maintenant, ça, c'était avant. Et qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est d'avoir la même bouteille que tout le monde parce que c'est celle qui va permettre de faire des économies d'énergie, de CO2, d'eau et de tout le reste.
Reste quand même, pour le marketing, l'étiquette.
L'étiquette, on peut se différencier par l'étiquette, mais même là, on a des petites mauvaises nouvelles des fois pour nos producteurs parce qu'on va leur expliquer que pour que l'étiquette soit lavable, on ne peut pas mettre de vernis parce que sinon l'eau ne pourra pas pénétrer, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de contraintes qui font qu'on ne peut pas être dans tout le délire qu'on a pu avoir ces 10 dernières années ou ces 30 dernières années, on va dire, sur la différenciation du produit par le packaging.
D'accord, donc dans tous les cas, même si on essaye de faire au mieux et de faire voyager ces bouteilles le moins possible, il y a une problématique de transport. Si je comprends bien, ces bouteilles, elles vont beaucoup voyager. Comment est-ce que se font ces différents transports en local entre les différents endroits à Marseille et peut-être dans toute la France? Et est-ce qu'on a possibilité de connaître l'impact carbone, par exemple, de ces transports et peut-être de la comparer par rapport à l'autre option bien connue qu'on utilise le plus, qui est le recyclage?
Donc on a différents modes de transport. Pour tout le centre-ville de Marseille, on travaille en cyclo-logistique, donc avec un partenaire principal qui s'appelle Agile en Ville. Et ensuite, on a notre entrepôt principal qui est à Vitrolles. Donc on a aussi un transporteur qui s'appelle Mainforte, qui est une entreprise d'insertion par le transport, donc qui fait la plupart de nos tournées sur les Bouches-du-Rhône. On a un autre transporteur sur le Vaucluse et maintenant un autre transporteur dans les départements alpins. Donc effectivement, les bouteilles sont transportées, mais du coup, si on veut comparer à l'usage unique, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une ACV, qui est une analyse de cycle de vie des produits, et qui est assez rapidement en faveur du réemploi des bouteilles. Le chiffre que j'aime bien retenir, c'est que en fait, dès la deuxième utilisation d'une bouteille, le réemploi est plus avantageux qu'une bouteille à usage unique, même si elle provient de matières recyclées. Intuitivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étape qui génère le plus d'empreintes écologiques, c'est l'étape de fabrication de la bouteille. Et donc, en fait, quand on va faire du réemploi, on va amortir cette fabrication sur plusieurs cycles. Et donc c'est ce qui fait qu'en fait on a un avantage du réemploi sur l'usage unique.
Peut-être ce qu'on peut expliquer quand on ne sait pas comment ça se passe pour une bouteille recyclée, la fameuse bouteille qu'on a jetée dans la benne là, en tout début d'émission, qui allait se briser en 1000 morceaux, ces morceaux, en fait, ils vont être transportés dans une usine pour que ça puisse être recyclé. C'est des usines dont les fours fonctionnent à 1500 degrés à peu près. C'est des fours qui fonctionnent 24 heures sur 24. D'ailleurs, il faut à peu près 24 heures pour que nos petits bouts de verre redeviennent la matière première qui va permettre de refaire une nouvelle bouteille qui est potentiellement exactement la même que celle qu'on avait jetée dans la benne. Donc, c'est excessivement énergivore. Donc c'est pour ça qu'effectivement, oui, il y a un impact du transport et il faut qu'on soit très vigilant à cet impact de transport et à essayer de limiter cet impact. Mais en fait, l'énorme impact, il est dans le processus de fabrication. Et donc si on arrive à faire tourner une bouteille 20 à 50 fois, on évite 20 à 50 fois de repasser par ce processus de fabrication. Donc ça veut dire que l'ADEME qui a fait tout un tas d'études pour justement chercher un peu l'impact possible du réemploi, dit qu'en gros, dès une bouteille réemployable, si on la compare à une bouteille recyclée, c'est grosso modo 80% d'économie d'énergie, 80% d'économie de CO2 et moitié moins d'eau. Et ça, c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit, bah oui, mais on va laver la bouteille et on est quand même dans un monde qui commence à manquer d'eau. Donc, est-ce qu'on veut réellement laver les bouteilles? Mais en fait, on oublie que dans le processus de recyclage, il y a beaucoup, beaucoup d'eau, parce que justement, il y a des températures très élevées et que donc il faut refroidir ces bouteilles et on utilise beaucoup d'eau. Donc, pour laver une bouteille réemployable, on la lave dans une eau à 80 degrés. Donc, si on le met à côté des 1500 degrés de la bouteille, on imagine l'économie d'énergie. Et il faut à peu près l'équivalent d'une tasse de thé pour laver une bouteille en termes d'eau. Donc, c'est pas non plus, donc, quand on a des usines de lavage qui sont assez performantes, on gaspille peu d'eau.
Merci d'avoir balayé tout doute s'il en restait. Claire, tu voulais rebondir ?
En fait, tu viens d'aborder, c'était la question de l'eau justement, parce que j'avais appris la semaine dernière, grâce à toi Lisa, que effectivement le réemploi consommait moins d'eau que le recyclage.
Mais par contre, Jeanne, tu avais toi des questions.
Oui, pardon. En tant que fervente cliente de Nathalie et donc de son délicieux vin, je suis déjà plusieurs fois régulièrement allée dans son magasin et c'est assez bien signalé le fait qu'elle travaille avec l'Incassable et elle mentionne à chaque fois le fait de pouvoir ramener les bouteilles. Ma question, c'est plutôt de est-ce que finalement vous avez un peu de la perte sur les gens qui achètent une bouteille à Nathalie mais qui oublient de que ça peut se réemployer, oublier de rapporter la bouteille et finissent par la jeter terriblement à la benne. Est-ce que vous avez un petit peu aussi la capacité ou la possibilité de mesurer ça ? Et j'imagine que ça répond aussi à des enjeux de sensibilisation. Comment on va sensibiliser les consommateurs et consommatrices comme moi sur le fait d'avoir ce geste de consommation aussi ?
Voilà, je crois que c'est un des gros, gros enjeux de la filière. C'est effectivement ce geste retour que tout le monde a perdu et qu'il faut réapprendre. Quand la filière a été lancée, elle a commencé à être opérationnelle en 2021. Le pari, c'était de dire que les consommateurs vont naturellement ramener leurs bouteilles si on leur demande gentiment. Et en fait, malheureusement, au début de la filière, on avait des taux de retour autour de 15%. Donc ça veut dire qu'il y avait 85% des gens qui oubliaient ou avaient la flemme de ramener leur bouteille. Donc depuis 2023, on pratique la consigne monétaire dans le réseau de l'Incassable. Et donc du coup, ça veut dire que le consommateur, il va payer 50 centimes de consigne au moment où il achète sa bouteille, qui lui sera remboursée au moment où il la ramène. Et depuis qu'il y a la consigne monétaire, la première année, on a eu 45% de taux de retour. Aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 50 et on continue à y travailler. Parce que justement, il y a encore de la sensibilisation à faire pour pas oublier de ramener sa bouteille.
Je trouve que c'était une question intéressante, Jeanne, parce que très pratico-pratique. Moi, il m'arrive à peu près les mêmes questions avec le Super Cafouche sur lequel j'achète des bouteilles. Mais souvent, en fait, l'alcool, quand on en achète, c'est aussi un achat convivial. Qui dit achat convivial, dit acheter une bouteille pour aller à une soirée qui n'est pas forcément chez moi, où je vais laisser la bouteille et puis après, je vais repartir. Et donc, ce qui était intéressant là-dedans, c'est de pointer aussi le fait qu'il faut en reparler autour de soi, parce que si on laisse la bouteille chez quelqu'un d'autre, ça sera à l'autre de s'en occuper. Et ça peut d'ailleurs être l'occasion de pouvoir faire un petit topo en soirée sur ce que c'est que le réemploi et finalement de faire une écologie sympa.
C'est un super sujet de fin de soirée, en effet, Marin.
Et d'ailleurs, je voulais compléter sur comment reconnaître une bouteille qui est réemployable. Il y a donc le petit pictogramme qui est national, donc qui va être même sur les bouteilles réemployables de Lille, ce sera le même picto qui permet d'indiquer au consommateur que la bouteille est consignée. Et sur notre outil de messagerie interne, récemment, on a partagé quelques photos de bouteilles qu'on a retrouvées lors des sessions de tri où les consommateurs écrivent à la main, ne pas jeter, c'est consigné, de grosses flèches vers le pictogramme du réemploi pour que justement les personnes en soirée pensent à ramener la bouteille.
Je voulais rebondir sur ce que disait Marin parce que je suis contente que tu parles du Super Cafouche qui est notre champion intersidéral du taux de retour. Le Super Cafouche, au dernier semestre, on n'est pas loin de 90% de taux de retour. Ce qui veut dire que quand les consommateurs sont vraiment motivés, ça fonctionne. Donc ça donne espoir aussi pour que ça puisse fonctionner un jour avec le reste de la filière, même si c'est plus lent. Mais c'est vrai que quand le travail est bien fait, quand tout le monde est sensibilisé, quand toutes les personnes qui sont à la caisse, parce que c'est ça qui joue beaucoup au Super Cafouche, c'est que finalement toutes les personnes qui sont à la caisse sont aussi des consommateurs, disent attention, cette bouteille elle est consignée, il faut la ramener, ça fonctionne en fait.
Il faut dire aussi que le modèle du Super Cafouche en tant que supermarché coopératif, eh ben fatalement, les clients sont des personnes qui travaillent aussi, enfin qui collaborent aussi au projet et donc vont revenir. Donc c'est sûr que ce modèle est à tout bon pour le dispositif de l'incassable.
Oui, et puis c'est un écosystème qui se tient. Là, on parle beaucoup de la forêt des possibles. Quand on est au Super Cafouche, il y a plein d'acteurs et d'actrices ensuite qui vont se retrouver dans d'autres associations. Donc c'est une vraie petite ruche de personnes qui sont convaincues de la nécessité de mener des actions comme ça.
Et alors, si jamais ce pictogramme n'est pas assez visible ou les gens sont dans des états de conscience qui ne leur permettent pas de s'en souvenir, ou alors, grande angoisse, si la bouteille casse ? En quoi est-ce que ça impacte finalement ? Qu'est-ce que ça fait pour l'incassable ?
Bah déjà, ce serait le comble pour nous. sans blague, en fait, déjà, on utilise des bouteilles en fait, qui sont certifiées réemploi. Donc, c'est des bouteilles en fait, qui sont assez solides en fait, pour pouvoir supporter plusieurs cycles. Heureusement, ça n'est encore jamais arrivé, mais c'est aussi qu'on est en fait dans une phase de maturité du réemploi en France qui fait que les bouteilles en fait font rarement plus de un ou deux cycles. Et du coup, en fait, le risque de casse dans ce cas est quand même assez limité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu aujourd'hui, et c'est quelque chose en fait qui pourrait arriver autant avec des bouteilles réemployées qu'avec des bouteilles neuves. La plupart du temps, ça vient d'un transport qui a été mal fait ou d'un consommateur en fait qui juste prend pas soin de la bouteille.
Comment est-ce que tu peux savoir qu'une bouteille a fait deux ou trois cycles ?
On ne peut pas. Okay. On n'a pas de traçabilité. Alors justement, la traçabilité, c'est un des enjeux forts du réemploi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité à l'unité en fait, des bouteilles. On pourrait commencer à le voir sur les bouteilles en Allemagne, par exemple, qui font jusqu'à 20, 30, 40 cycles. On commence à voir, en fait, elles sont usées sur les côtés. On commence à voir des marques d'usure. Mais à part ça, il n'y a pas de QR code indélébile qui resterait sur plusieurs cycles de la bouteille.
Ok. Vous nous parliez tout à l'heure de la croissance de l'incassable et du développement de l'asso sur de nouveaux départements. Alors qu'est-ce que ça implique, ce déploiement, notamment en mesure de création d'infrastructures, peut-être de nouveaux emplois, voilà, comment ça se passe ?
Alors là, effectivement, c'est notre gros challenge du moment puisque on intervient maintenant sur le 04 et le 05, donc les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, alors que jusqu'à présent, la filière s'était développée seulement sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Alors la grande chance qu'on a eue quand même sur ces départements, c'est qu'on ne part pas de zéro, loin de là, puisqu'en fait, il y avait un acteur associatif local qui s'appelle Comme une bouteille, qui avait développé la filière de réemploi. Sur ces départements-là, qui a fait un travail incroyable, d'autant plus que c'était porté uniquement par des bénévoles. Et franchement, monter une filière de réemploi uniquement sur du bénévolat, moi je dis chapeau. Donc ils ont fait un travail incroyable et ils sont arrivés à un moment à la limite de ce qu'ils pouvaient faire bénévolement. Et donc on a commencé à se rapprocher cette année-là, en 2024. On a fait pas mal de choses en commun, notamment des lavages en commun, des accompagnements de producteurs, etc. Jusqu'à ce qu'on prenne la décision commune, finalement, que l'incassable intègre ces activités-là pour les développer. Donc, on arrive dans un terrain qui n'est pas du tout à défricher. Il y avait déjà plein de choses de faites. Mais effectivement, dès lors qu'on veut passer d'un stade un peu plus artisanal à un stade industriel, parce qu'il y a un moment donné où une filière de réemploi, c'est une industrie. On parle à terme de millions de bouteilles à collecter tous les ans. Mais il faut développer des infrastructures. Donc notamment, là, à partir du mois de mars, il va y avoir un centre de tri et de massification. Ce qu'on appelle la massification, c'est l'endroit où on regroupe toutes les bouteilles avant qu'elles partent au lavage, qui va ouvrir à Sisteron, pour qu'on puisse avoir ce point d'appui sur ces départements-là, de la même manière qu'on le fait aujourd'hui à Vitrolles pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.
D'accord. Donc là, on a parlé toujours d'impact régional. Tu ouvrais la possibilité de nous parler du réseau national. Qu'en est-il ?
Alors, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'incassable fait partie des membres fondateurs de ce qu'on appelle France Consigne, qui est une association qui regroupe en fait les opérateurs de réemploi qui font ce qu'on fait nous ici, mais ailleurs en France. Donc, il y a 11 membres aujourd'hui de France Consigne. On ne couvre pas encore la totalité du territoire, mais ça commence à être quand même... pas loin de la totalité du territoire. Et donc, on a construit tous ensemble un système pour que, en gros, nos filières locales soient interopérables. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, que la bouteille de Lille, quand je la vois arriver à Marseille, je sais que je peux la collecter les yeux fermés et je sais qu'elle va se laver parce qu'on a exactement les mêmes process d'accompagnement des producteurs. On a les mêmes cahiers des charges pour les bouteilles et pour les étiquettes. On a les mêmes standards. Et donc, du coup, on peut mutuellement se faire suffisamment confiance pour que ces bouteilles puissent circuler n'importe où en France et qu'ensuite, on puisse les récupérer et les amener au producteur le plus proche pour, encore une fois, limiter l'impact de la boucle. Donc là, il y a un gros travail qui est fait au sein de France Consigne. On se parle quasiment toutes les semaines, on se voit deux fois par an. C'est vraiment un travail de fond pour que la filière de réemploi sorte de terre. C'est un projet collectif super enthousiasmant, très épuisant parfois, mais vraiment très enthousiasmant. Et c'est vrai que France Consigne, ça a quand même un gros impact. On n'est pas loin de 5 millions de bouteilles collectées à nous tous. Il y a plus de 600 producteurs en France qui ont été accompagnés. Donc ça veut dire que nous, on a nos producteurs locaux, mais du coup, on va bénéficier aussi de toutes les bouteilles de ces producteurs qui ont été accompagnés partout en France et qui peuvent être consommées dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, etc., et qu'on va pouvoir collecter. Donc c'est un beau projet.
Des bouteilles interchangeables qui pourront servir dans toutes les régions de France bientôt. C'est merveilleux. Je vous propose de prendre une petite respiration musicale. Il me semble que vous avez choisi un morceau. Peut-être vous voulez nous l'introduire et nous expliquer pourquoi ce choix.
Oui. Alors, à l'Incassable, on trie les bouteilles en équipe. C'est-à-dire qu'il y a une journée par semaine ou tous les 15 jours. Ça dépend du rythme des collectes où on va dans l'entrepôt à Vitrolles pour trier les bouteilles. C'est un boulot assez physique. Hein. La semaine dernière, on a trié 5000 bouteilles dans la journée. Ça fait à peu près 2,5 tonnes de verre qu'on se trimballe. Donc, c'est une bonne séance de gym. Donc, on le fait en musique. Ce qui fait qu'on a effectivement des playlists qui ne sont pas forcément... comment dire, c'est pas forcément pour le sens de la chanson qu'on sélectionne la chanson. C'est plutôt parce que ça nous donne envie de bouger et de trimballer des bouteilles. Donc, on vous a pris un petit exemple de chanson qui donne envie de trier des bouteilles.
C'est parti, si vous êtes dans votre cuisine, près de votre poubelle de verre, triez.
Come to town, lonely lady.
Rebonsoir à tous, merci d'être à l'écoute sur Radio Galère. On est ce soir en compagnie de l'incassable. Lisa et Benoît nous parlent du système de consignes qu'ils ont mis en place, en commençant par Marseille, et puis qui s'est étendu sur toute la France. Et grâce à ce réseau national, tout le territoire sera bientôt pourvu d'endroits où vous pourrez redéposer vos bouteilles consignées, et elles ne se casseront plus jamais. C'est la promesse qu'on vous fait ce soir. Alors, ça sonne un peu comme une innovation, le réemploi, toute cette histoire de circularité des bouteilles. Pour autant, dans d'autres pays, ils le font, comme en Allemagne par exemple, et puis il n'y a pas si longtemps en France, on le faisait encore. Alors pourquoi est-ce qu'on a arrêté cette pratique ?
Alors en France, la consigne a disparu à partir des années 70 environ. Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu déjà l'apparition de la bouteille en plastique, qui fait que de nombreux produits qui étaient conditionnés dans des bouteilles en verre se sont retrouvés conditionnés dans des bouteilles en plastique jetables. Il y a eu aussi, je pense, l'essor de la grande distribution qui a un petit peu allongé en fait les boucles d'approvisionnement des produits et rendu plus compliqué la logistique retour, qui était en fait au cœur du système de consigne tel qu'il était avant. Et puis, il y avait aussi une certaine volonté, je pense, des industriels d'externaliser en fait un coût pour eux, qui était suite de la reprise des emballages. Le problème, c'est qu'on s'est vite aperçu que ça allait pas le faire, parce que les collectivités en fait sont retrouvées avec de plus en plus d'emballages à gérer, et qui était un coût pour les collectivités, parce que le coût de gestion des déchets pour les collectivités n'a fait qu'augmenter suite à ça. Et donc en fait, c'est suite en fait à cette montagne de déchets qui est arrivée qu'on a inventé ce qu'on appelle les filières REP, donc responsabilité élargie des producteurs. Donc en fait, c'est les filières, on appelle ça en fait pollueur-payeur. Ça a commencé par les emballages, puis il y a eu le textile, le bâtiment, tout le secteur de l'électroménager. Et en fait, du coup, aujourd'hui, c'est cette filière-là qui fait que sur chaque emballage que vous achetez, vous payez une petite taxe qui est reversée à un éco-organisme. Derrière cet éco-organisme, en fait, c'est tous les metteurs en marché d'emballage qui se regroupent pour financer la gestion, la fin de vie en fait, des emballages qu'ils mettent sur le marché. Et du coup, en France, tout ça, ça a permis notamment de financer tout le système du recyclage. Mais malheureusement, on n'a pas trop respecté la priorité dans la hiérarchie du mode de traitement des déchets, parce que normalement, c'est d'abord réduire, ensuite réutiliser, réemployer, et seulement en dernier recours, recycler. Sauf qu'en France, la grande priorité a été donnée au recyclage, et c'est que de nos jours qu'on commence à se réintéresser au réemploi. Mais le problème, c'est qu'on part de très loin, quoi.
Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait certains organismes qui avaient beaucoup aidé, notamment la structure de l'incassable, à se relancer dans cette stratégie.
Oui, effectivement, heureusement, on a eu des soutiens, et notamment des soutiens financiers, parce que repartir de zéro dans une filière qui n'existe plus du tout, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement humain. Donc c'est vrai qu'on a été soutenus depuis le début, à la fois par l'ADEME, qui est notre principal financeur, par la région Sud, par la métropole Aix-Marseille, par la ville de Marseille, et on a aussi un soutien de la Fondation Massif.
On leur dit un grand merci, notamment à l'ADEME. On espère vous voir encore longtemps parmi nous. Alors si on imagine que la pratique de la consigne se généralise, je voudrais savoir un petit peu, bon, peut-être pas dans un détail incroyable, mais qu'est-ce que ça changerait en termes de comportement humain, notamment, donc pour les producteurs et productrices qui créent la nourriture ou la boisson, pour les consommateurs, pour tout l'écosystème, tous les humains qui vont rentrer en interaction avec ces bouteilles consignées, quels sont les habitudes qui vont devoir changer?
Donc déjà, quand on parle système de réemploi à l'échelle, il faut savoir un peu de quoi on parle. En France, ce qui fixe un peu l'objectif, c'est 10% d'emballages réemployés tous les ans. Donc ça, c'est l'objectif un peu à minima de la loi AGEC. Donc ça, à quoi ça ressemblerait? Ça serait 2 milliards d'emballages chaque année qui seraient réemployés. Donc voilà, en comparaison, nous aujourd'hui, on a réemployé 200 000 bouteilles. Donc on en est très loin. Donc là, je parle sur tout le territoire français, hein, je ne parle pas qu'en région PACA.
Ouf.
Ça serait 7000 automates de récupération qui seraient disséminés un peu dans toutes les grandes surfaces de France. Donc ça, c'est important, ça serait un réemploi, une consigne qui ne se fait pas comme aujourd'hui essentiellement dans les réseaux bio, mais qui serait démocratisée vraiment à toute la GMS. Et pour gérer tout ça, ça serait autour de 26 centres de lavage répartis aussi partout en France. Et du point de vue du consommateur, on viserait 95% de taux de retour sur l'ensemble du territoire. Donc tout ça, effectivement, ça implique des changements d'habitude complètement radicaux de la part à la fois du consommateur, de la part des industriels qui doivent changer leur machine d'embouteillage pour s'adapter à des nouvelles références standards, et aussi les magasins qui doivent faire de la place dans leurs espaces de stockage pour faire de la place pour le stockage des bouteilles. Donc tout un écosystème en fait qui se retrouve chamboulé par une pratique qui a disparu et qui revient.
Mini question, tu as employé le mot GMS pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est.
Grande distribution, on va dire. Voilà. Supermarché, hypermarché.
Également, en termes pour le secteur de l'industrie, notamment je pense à l'extraction de matières premières, qui est sûrement un business assez lucratif, dans quelle mesure est-ce que ça va impacter les producteurs de verre, par exemple, les usines qui produisent du verre ?
Donc effectivement, si on suit la logique, plus on réemploie du verre, moins il y a besoin de verre neuf. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc malheureusement, pour ces gens-là, ils vont potentiellement perdre des parts de marché. Mais après, il y a aussi des positions, de nouvelles positions à prendre, de nouveaux métiers qui s'inventent. En fait, c'est prouvé que dès qu'on fait du réemploi, il y a plus d'emplois qui sont créés que dans des industries classiques. Parce que quand on fait du réemploi, en fait, c'est un peu de l'orfèvrerie, contrairement à des gros processus industriels. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas automatisables. Par exemple, quand on va trier 40 références de bouteilles ou de bocaux, il y a une partie des choses qu'on va pouvoir automatiser, mais la plupart des choses, il va falloir des humains pour le faire. Du coup, c'est aussi, dans un contexte de réindustrialisation, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de revenir au réemploi, parce que c'est assez intensif en fait en main-d'œuvre, et ça se prête assez bien aussi à tout ce qui est travail en insertion, parce que c'est des choses pour lesquelles on peut travailler comme ça.
Et vous parlez de grande distribution, on sait que c'est aussi ces entreprises-là qui peuvent avoir un effet de bascule. Est-ce que vous avez déjà identifié des guichets d'entrée auprès de ces interlocuteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse?
Alors, ça, pour le moment, c'est un gros enjeu pour nous localement. C'est-à-dire qu'on souhaiterait pouvoir implanter du réemploi en grande distribution, dans des supermarchés, dans des hypermarchés. On a plein de prises de contact et pour le moment, rien qui aboutit. Donc, c'est vrai que c'est un gros enjeu pour nous en 2025 de pouvoir amener le réemploi à des publics différents de ceux qui fréquentent les magasins bio. Donc, ça, c'est effectivement une marche importante pour le réemploi parce qu'elle permettrait d'atteindre un public qui est beaucoup plus nombreux et qui représente effectivement des millions de bouteilles qui aujourd'hui sont jetées à la benne. Et peut-être pour compléter ce que disait Benoît sur la question de l'industrialisation et de l'emploi, ce qui est particulièrement important et intéressant avec le réemploi, c'est que comme on génère des boucles locales, puisque le but c'est encore une fois de faire le moins de kilomètres possible avec la bouteille, ça veut dire qu'on crée de l'emploi qui est nécessairement non délocalisable. L'emploi, il est forcément local, il ne va pas partir à l'étranger, on ne va pas aller chercher des pays à bas coût pour faire du réemploi, on est obligé de le faire ici et localement.
Je reviens sur ce que tu disais, Lisa, concernant la présence en supermarché, hypermarché. Il y a quand même cette expérimentation qui est menée en ce moment, en 2025, par l'organisme Citeo, qui va viser à déployer des automates de déconsignation dans des supermarchés, dans des régions françaises qui ne sont pas la région sud. Mais voilà, nous, on suit de très près ce qui se passe pour pouvoir ensuite répliquer sur le territoire.
Oui, effectivement, c'est des choses dont on entend parler dans les médias, hein, puisqu'il y a pas mal d'annonces et à raison. Dans le nord et l'ouest de la France, dans quatre régions, il va y avoir à partir de la moitié de l'année 2025 le lancement d'une expérimentation là pour 18 mois où le réemploi va être accessible en grande distribution. Et pas que d'ailleurs, mais c'est un peu l'innovation de ce projet. pour tester ce que ça donne à grande échelle.
Très bien, des perspectives élargies donc pour le réemploi. Vous mentionnez la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage économie circulaire qui se déploie, qui se développe un peu plus chaque année. Clairement, ces évolutions vont dans le sens de la démarche de l'incassable. En quoi est-ce qu'elle peut propulser, aider votre activité ?
Alors, c'est un cadre indispensable. C'est-à-dire, la loi AGEC, comme le disait Benoît, elle fixe un cap qui est 10% d'emballage réemployable d'emballage ménager en 2027. Alors, elle fixait un cap intermédiaire quand elle a été publiée, qui était 5% en 2023. Si on fait un bilan à fin 2024, on est à 1,5%. Donc, ça montre aussi les limites d'une loi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une loi, elle fixe un cap. Mais ce n'est pas suffisant. Et le problème de cette loi, c'est que pour le moment, elle est incitative. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de sanctions aujourd'hui si elle n'est pas appliquée. Donc c'est ce qui fait que la filière, elle met du temps à se mettre en place et à démarrer. Et donc ça, c'est une vraie frustration pour nous. Ce n'est pas une simple frustration. Il y a aussi des acteurs du réemploi et notamment tous nos collègues qui sont centres de lavage, qui se sont mis en ordre de marche quand la loi AGEC est sortie, et donc avec des volumes qui étaient annoncés en fonction des objectifs, et donc qui ont fait des gros investissements. Et aujourd'hui, ces centres de lavage, ils fonctionnent à sous-capacité parce que les volumes ne sont pas encore là. Et donc, on a un système du réemploi qui est en grande difficulté économique aujourd'hui, il faut quand même le dire. Hein. C'est la réalité du réemploi en 2025. On a des acteurs qui sont en grande difficulté financière parce que les volumes ne sont pas encore là. Donc la loi AGEC, elle est à la fois importante et insuffisante pour que le réemploi décolle.
Tu nous parlais aussi, avant l'émission, d'une loi qui avait été passée au niveau de l'Europe, il me semble, dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler dans les médias. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot ?
Alors, c'est tout neuf, effectivement, mais si ça fait des années que c'est en travail, c'est ce qu'on appelle le PPWR, en bon français, c'est le règlement européen sur les emballages. Donc c'est l'Europe qui s'est mis d'accord effectivement sur comment on allait essayer de réduire l'impact des emballages au niveau de toute l'Union européenne. Ça a été voté là, ça rentrera en vigueur qu'en 2026, donc on n'y est pas encore. Mais ça fixe effectivement des caps qui sont intéressants, notamment sur la question de la réduction des déchets d'emballage avec des objectifs ambitieux qui sont, ambitieux, moins 5% d'ici 2030, ça c'est pas super ambitieux, mais déjà moins 15% d'ici 2040. Ça oblige l'éco-conception des emballages, d'avoir des emballages qui ne peuvent plus avoir autant de vide à l'intérieur, etc. Et puis ça donne une priorité au réemploi et à la recharge, donc c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est-à-dire que 40% des emballages devraient être réemployables d'ici 2030. Donc ça, c'est très ambitieux. Ça, c'est pas pour tous les emballages, malheureusement, mais pour les boissons, ce qui nous concerne en particulier. Donc ça, c'est des objectifs très ambitieux. Donc ça devrait être un levier supplémentaire. Après, arrivent là-dessus des questions de lobby. Et particulièrement, notre lobby français du vin a réussi à obtenir une exception. C'est-à-dire que tous les emballages sont concernés, sauf le vin, dans la version actuelle de la loi. Donc on espère que ça évoluera. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vents contraires hein, dès lors qu'on essaye de limiter la production de déchets. Et on est souvent confronté à un peu du chaud et du froid. Quoi. C'est-à-dire que l'ambition initiale de cette loi était incroyable. Elle a été quand même considérablement restreinte au fil du temps. Et puis on attend de voir s'il y aura des sanctions en cas de non-application. Pour le moment, c'est toujours pas très clair.
Eh oui, c'est malheureusement souvent par la sanction qu'on arrive à faire bouger les lignes le plus possible. Et ça ne m'étonne pas tant finalement que l'industrie du vin mette un peu les pieds devant pour ne pas se plier à ça, puisqu'il y a en effet des bouteilles hyper spécifiques pour chaque type de vin différente. Et on parlait aussi du champagne avant l'émission, qui est encore un autre sujet. Et voilà, toutes ces spécificités, bon, peuvent peut-être légèrement freiner cette action et cette filière, mais elle a quand même, a priori, de très beaux jours devant elle.
On l'espère.
Claire, est-ce que tu voulais présenter à nos invités la question surprise ?
Oui, bien sûr, je vais reprendre la casquette d'animatrice pour vous poser cette question surprise qu'on vous a un peu annoncée tout à l'heure. Alors pour cela, je vais vous inviter à bien vous ancrer dans le sol, les deux pieds à plat, à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Lorsque vous expirerez, vous serez catapulté en 2035. Vous serez à Marseille, dans votre ville où vous vivez actuellement, et regardez ce qu'il se passe autour de vous. Où êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Quels sont les bruits? Quelles sont les odeurs? Et quand vous ouvrirez les yeux, vous serez de nouveau parmi nous en 2025, et on aimerait voir, savoir ce que vous avez vu. Lisa.
Allez, je me lance. On fait un apéro avec l'équipe de l'Incassable, parce qu'on aime bien les apéros. Alors évidemment, on boit, qu'est-ce qu'on boit ? On boit des bières réemployables, bien sûr, de nos brasseurs marseillais favoris. Et on est en plein centre-ville. Et c'est tout propre, parce qu'en fait, on a tellement réduit notre consommation d'emballage que les poubelles ne débordent plus. Et en plus, ça sent bon parce qu'il y a vachement moins de voitures. Donc du coup, on n'a plus d'odeur de pot d'échappement, etc. Et du coup, on entend les petits oiseaux parce qu'il y a aussi beaucoup moins de bruit. Donc ça va être super 2035.
On aime. Et toi, Benoît, qu'est-ce que tu as vu ?
Alors moi, j'ai d'abord entendu un bruit qui nous est un peu familier chez l'Incassable, c'est le bruit des tintements de bouteilles. Pour se le représenter, il faut venir soit en session de tri, soit sur un lavage. Du coup, c'est assez, voilà, ça fait un vacarme, mais qui est à la fois assez familier, un petit peu rassurant, ce bruit des bouteilles sur une ligne d'embouteillage, enfin sur une ligne de lavage plutôt. Et du coup, ce que j'imaginerais, c'est peut-être une grande friche industrielle à Marseille qui a été au cœur duquel il y aurait un pôle vraiment du réemploi qui fédérerait en fait différents acteurs de l'économie sociale et solidaire à Marseille, et dans lesquels on pourrait avoir investi une grande zone pour monter une unité de lavage à Marseille, par exemple. Avec une belle équipe de, je ne sais pas, 20-30 personnes qui sont occupées à trier et laver des bouteilles. J'espère qu'on arrivera à ça un jour. Même si les temporalités sont très très longues en matière de réemploi, il faut pas désespérer.
Et d'ailleurs, pour compléter, l'apéro, c'était pour fêter les 3 millions de bouteilles réemployables de l'année, bien entendu, puisqu'on est en 2035.
Oui, et d'ailleurs, auparavant, cette question, on demandait aux invités de se projeter en 2030, mais voilà, les années passent et on a repoussé l'échéance.
Notre émission touche à sa fin. Et le dernier mot est toujours pour nous inviter. Est-ce qu'il y a une info, une actu, quelque chose que vous voudriez dire à nos auditeurices avant de rendre le micro ?
Alors la petite actu de 2025 du coup, ça sera probablement pour nous le passage en coopérative et en particulier en SIC. C'est notre grand projet cette année de transformer l'Incassable en une société coopérative. Et donc c'est vrai que ça va beaucoup nous occuper, mais c'est un projet super enthousiasmant, c'est-à-dire de construire une filière autour de une coopérative qui englobe toute cette filière, qui puisse intégrer nos producteurs, nos distributeurs, nos imprimeurs, etc. Donc on espère pouvoir vous en parler un peu plus d'ici quelques mois.
Et moi, ça serait peut-être juste remercier l'équipe, si, pour ceux qui nous écoutent. Parce que au début, c'est vrai que le projet, on a commencé à deux avec Camille. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est un projet collectif. Donc ça, on en est très fiers. Et puis c'est un plaisir de travailler avec chacune des personnes de l'équipe.
On leur fait la bise depuis les studios de Radio Galère.
Et moi aussi, j'aimerais compléter en tant qu'invitée. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se rendre sur le site de l'Incassable et à consulter la carte sur laquelle vous pourrez retrouver tous les magasins partenaires qui pratiquent la consigne, mais aussi les producteurs, productrices qui utilisent les bouteilles réemployables. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine émission de La Forêt des Possibles. Très belle soirée.
Merci à toutes et tous et bravo à toi Elissa pour cette incroyable première. C'est comme si tu étais animatrice depuis toujours.
Merci.
On rend l'antenne, à bientôt, ciao.
Au revoir.
Bonne soirée.